Salut à toutes et à tous, c'est Manon, vous écoutez 3 en 1 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de déboire ?
L'agriculture est en train de crever, sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue
venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, votre émission d'actualité locale de Canal B, que vous retrouvez chaque lundi et mercredi de 12h15 à 12h45. Et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent en rediff, les mardis et jeudis matin à 8h15, bonne écoute à cette heure matinale. Et dans cette édition du mercredi 18 février, je suis en compagnie de Julie et d'Apolline, en stage à Canal B pour la semaine. Salut les filles.
Salut.
Salut.
Apolline, on va te retrouver dans quelques minutes pour le billet d'humeur du jour. Ensuite, vous entendrez une interview que j'ai réalisée avec Vincent Dubreuil, géographe, climatologue et enseignant à l'université Rennes 2 sur le sujet du réchauffement climatique. On parlera inondation, un sujet d'actualité vu le temps depuis quelques semaines en France et notamment en Bretagne, mais on a aussi parlé surchauffe en ville puisque c'est le domaine de prédilection de Vincent Dubreuil. Et puis en fin d'émission, on laissera place à Julie pour sa première chronique et on va rester sur un thème environnemental.
Et oui Manon, parce que lundi, je me suis rendue au TNB pour aller voir le documentaire de Thomas Lacoste Soulèvement sur le collectif Les Soulèvements de la Terre et j'ai beaucoup aimé.
Bien, très bien, on verra ça à la fin de l'émission 3 en 1. Apolline, je crois que tu as un retour à nous faire sur ce qui s'est passé jeudi 12 février à Lyon, c'est ça ?
Oui, pour rappel, Quentin D, un étudiant de 23 ans, est mort samedi 14 février des suites d'une agression survenue deux jours plus tôt. Le jeune homme était proche du collectif Némésis, groupe identitaire d'extrême droite se revendiquant féministe, mais qui ne défend que les femmes dites occidentales. L'agression a eu lieu alors que le collectif Némésis tentait de perturber la conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan, donnée à l'Institut d'études politiques de Lyon.
Mais aujourd'hui, on ne va pas faire le procès de cette agression, puisque ce n'est pas notre rôle et qu'on a de toute manière assez peu d'informations sur le sujet. Apolline, tu vas nous parler d'un article publié par le média en ligne Contre-Attaque, dont la ligne éditoriale est classée du côté de la gauche radicale, publié le vendredi 13 février 2026.
L'article intitulé « Contre le narratif victimaire des néofascistes, la liste des victimes de l'extrême droite depuis 2022 » est présenté sous forme de liste. Il revient sur les violences, voire décès, provoqués par l'extrême droite depuis le 2022. Ce décompte est incomplet car il ne recense que des cas dont a parlé la presse locale et qui ont donc été officiellement recensés.
Mais le but ici n'est pas de comparer les victimes en fonction de leur bord politique, puisqu'une vie vaut toujours une vie.
Évidemment, ce que met en lumière cet article en revanche, c'est la différence dans l'action de l'État selon qu'un événement est organisé par un parti de gauche ou un parti d'extrême droite. Lors de meetings d'extrême droite, le dispositif policier mis en place est important et il y a une répression des mobilisations antifascistes. Alors que lors d'événements organisés par la gauche, on ne retrouve généralement pas autant de protection pour les organisateurs et organisatrices. On peut se dire que cela peut ouvrir la porte à des violences comme on a pu le voir jeudi dernier à Lyon.
Et l'article évoque aussi le rôle des médias dans ce genre de situation.
Oui, parce qu'évidemment, cette agression a rapidement pris toute la place dans les médias. Il ne faut pas la minimiser, bien sûr. On peut tout de même remarquer la différence de traitement médiatique en fonction du bord politique des victimes.
Et ça ne dépend pas des propriétaires des médias, ça ?
Bien sûr que si, des médias tels que CNews ou BFM TV ont parlé de cette agression pendant des heures, mais ils n'ont pas assuré la même couverture médiatique pour les 11 morts et 19 blessés graves par balles ou armes blanches lors d'agressions racistes et fascistes depuis 2022 en France.
Comme on l'a dit précédemment, toutes ces vies se valent. Un peu plus d'un an avant les élections présidentielles, n'oubliez pas que les médias et leurs propriétaires ont la main sur ce qui est mis en avant et les victimes de l'extrême droite n'en feront probablement pas partie. Merci Apolline pour ce rappel.
Falling to pieces under your lemon kisses on her love, coming to ashes evergreen, golden love is over. My delusion, your candor, your lemon kisses on her tears, rolling back roses evergreen, golden love is over.
Evergreen du groupe rennais Rukin sur le 94 FM. Et vous allez maintenant retrouver l'interview de Vincent Dubreuil, géographe, climatologue et enseignant de l'université Rennes 2. On va donc parler changement climatique, inondations et surchauffe urbaine. Chaque hiver, la Bretagne fait face à de fortes précipitations. Et en été, surtout en ville, la chaleur devient plus intense. Mais alors, pourquoi la Bretagne est touchée par ces phénomènes climatiques et quelles en sont les conséquences? Pour répondre à ces questions, je suis aujourd'hui avec Vincent Dubreuil, géographe, climatologue et enseignant à l'université Rennes 2. Bonjour Vincent Dubreuil.
Bonjour.
Pour commencer, vous l'avez sûrement remarqué, en Bretagne et notamment à Rennes, les sols sont gorgés d'eau et ne peuvent presque plus en absorber davantage. Et si le record de 202 mm de pluie lors du seul mois de janvier 2025 à Rennes n'a pas été battu, plus de 120 mm y sont tombés en janvier 2026. Vincent Dubreuil, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a bien un lien entre réchauffement climatique et hausse des précipitations et des inondations ?
Alors, je pense qu'on ne peut pas être aussi affirmatif. Les précipitations, en Bretagne ou ailleurs, elles sont soumises chaque année à ce qu'on appelle une variabilité. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des hivers plus arrosés, d'autres moins. Voilà. Donc, ce qu'on a observé cette année sur les Vidennes n'a rien d'exceptionnel. On ne peut pas directement le mettre en relation avec le changement climatique. Ce qu'on a observé dans le Finistère est quelque chose de plus intéressant, plus intéressant pour un climatologue, puisqu'on a eu plus de 350 mm et localement plus de 400 mm. On a une dizaine de stations dans l'ouest de la Bretagne, Finistère et Morbihan, qui ont battu leur record absolu. Donc là, on est vraiment sur des valeurs qui sont des valeurs historiques et donc bien plus importantes, puisque, juste pour avoir une petite idée, hein, c'est plus de 400 mm qu'on a eu dans une ou deux stations bretonnes. Donc deux fois ce qu'on a eu à Rennes en 2025. Donc vraiment des quantités qui sont très, très impressionnantes et qui expliquent que les crues, les inondations ont été très importantes sur le sud Finistère et une partie du Morbihan.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une station bretonne ?
Alors une station, c'est un poste d'observation météorologique, c'est-à-dire un endroit où on va mesurer des paramètres météorologiques. Donc là, on parle des précipitations. Donc on a un pluviomètre, une sorte d'éprouvette graduée où on va regarder la quantité d'eau qui tombe. Donc qui nous permet d'exprimer en millimètres, c'est-à-dire en litres par mètre carré, la quantité d'eau qui est reçue. Puis dans d'autres stations, on va mesurer la température, le vent, etc.
Donc vous dites qu'il ne faut pas être si affirmatif par rapport au lien entre réchauffement climatique et inondation. Mais est-ce qu'il y a quand même un lien à faire entre les deux ?
Alors, autant en climatologie, on est très affirmatif quand on parle des températures, puisqu'on a un signal qui est sans doute sur le fait que les températures augmentent. Et les températures ont une certaine homogénéité à la fois spatiale et temporelle, ce qui nous permet d'être très affirmatif sur le fait que les températures augmentent, qu'elles vont continuer à augmenter et que c'est lié sans équivoque aux émissions de gaz à effet de serre. Les précipitations, c'est un phénomène qui est plus discontinu dans l'espace. On le sait intuitivement, on sait qu'à un endroit, il peut y avoir un très fort orage et à quelques kilomètres de là, il peut ne rien tomber du tout. Donc on a un phénomène qui est beaucoup plus hétérogène, et quand on regarde les séries historiques, donc quand on regarde l'observation dans la durée de ces phénomènes de précipitation, c'est statistiquement difficile de dégager des tendances. Alors, on a une tendance au fait qu'il pleuve un peu plus l'hiver. Dans certaines stations, c'est très significatif. Par exemple, sur Rennes, on a pu montrer que sur le mois de janvier, on a une tendance qui représente vraiment un signal important. Mais comme c'est très variable, on est extrêmement prudent, et donc on essaie de ne pas être trop affirmatif sur cette question-là.
Donc, est-ce qu'on peut faire un lien entre hausse des précipitations et réchauffement climatique ?
Alors, est-ce qu'on peut faire un lien avec le changement climatique ? La réponse est aussi avec une certaine incertitude. Alors, une règle physique simple dit que dans un climat plus chaud, enfin un air plus chaud peut contenir plus d'eau sous forme de vapeur, et donc le potentiel de précipitation dans un climat plus chaud devient plus important. Mais la pluie, elle dépend pas que de la température de l'air, elle dépend du passage des dépressions, des systèmes de dépression, d'anticyclone, de direction des vents, si ce sont des précipitations apportées par des perturbations ou des phénomènes pluvio-orageux. Donc en fait, il y a une diversité des mécanismes qui génèrent des précipitations et dont les relations avec le changement climatique sont un petit peu plus difficiles à établir que simplement l'augmentation des températures. D'où la prudence à chaque fois qu'on parle de ces phénomènes-là.
D'accord. Donc en tout cas, il y a une chose qu'on peut être un peu plus affirmatif, c'est que la hausse des températures en été est liée au réchauffement climatique.
Il n'y a pas de doute là-dessus.
Donc si les précipitations, elles sont plus nombreuses et violentes en hiver, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de pic de chaleur justement en été. Au contraire, dans les villes bretonnes, on parle aussi donc d'îlots de chaleur urbain. Donc vous qui êtes spécialiste donc des surchauffes principalement dans les villes, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'est un îlot de chaleur urbain ?
Alors îlot de chaleur, c'est l'observation du fait que la ville est plus chaude que la campagne qui l'environne. Donc dans un océan de fraîcheur qui est la campagne, la ville apparaît comme une île chaude, d'où l'appellation îlot de chaleur urbain. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un phénomène qui se produit essentiellement la nuit. C'est-à-dire quand on regarde la température le jour entre la ville et la campagne, il n'y a quasiment pas de différence. Alors, il peut y avoir des différences très importantes en fonction de où on est au soleil, à l'ombre, etc. Mais globalement, sur la ville par rapport à la campagne, pendant la journée, la différence est négligeable. Et donc c'est la nuit que la différence de température entre la ville et la campagne est importante. Et ça, c'est lié au fait que pendant la journée, en fait, en ville, les matériaux, les bâtiments vont absorber le rayonnement solaire, alors qu'en campagne, ça ne va pas absorber de la même façon. Et donc, la restitution de ce rayonnement se produit pendant la nuit. Donc, la quantité de chaleur emmagasinée pendant la journée dans la ville va être restituée pendant la nuit. Et dans la campagne, comme il n'y a pas eu de bâtiment pour absorber la chaleur, il n'y a pas de restitution. Ce qui fait qu'en début de nuit, la campagne se refroidit plus vite, où la ville se refroidit moins vite. Et c'est ça qui crée cette différence de température ville-campagne et cet îlot de chaleur.
Et comment on pourrait rendre aujourd'hui les villes moins vulnérables à cette chaleur, justement ?
Alors, pour limiter la surchauffe urbaine, on a coutume de le présenter avec ce qu'on appelle les solutions grises, vertes et bleues. Alors, le gris, c'est jouer sur les matériaux, la couleur des matériaux, par exemple. Si on a des surfaces claires, elles vont davantage réfléchir le rayonnement solaire, et donc elles vont moins stocker de chaleur, donc moins en restituer pendant la nuit. Donc, la nature des matériaux, la couleur des matériaux, c'est un premier levier. Le deuxième levier, donc les solutions dites vertes, c'est la place de la végétation. En fait, l'énergie disponible en campagne, elle est surtout utilisée par la végétation pour la photosynthèse et qui va limiter le réchauffement en campagne. Et donc en mettant plus de végétation en mettant des arbres, ça a un double effet. Pendant la journée, ça procure de l'ombre, donc il y a une sensation de confort thermique simplement liée au fait que l'arbre apporte de l'ombre. Et le fait que l'arbre consomme de l'eau, évapotranspire, ça limite le réchauffement atmosphérique en ville. Donc la végétalisation des arbres, de la végétation basse, etc., des pelouses, des parcs, tout ça, ça atténue la chaleur en ville. Et puis le troisième levier de la solution dite bleue, c'est la place de l'eau. C'est-à-dire avoir une ville qui contient davantage d'eau, des rivières, des fontaines, des lacs, enfin tout ce qu'on peut imaginer, le contenu en eau des sols. Et là aussi, le processus d'évaporation de l'eau, ça limite le réchauffement, l'augmentation de la température en ville. Donc voilà ce qu'on résume souvent avec les solutions dites grises, vertes et bleues.
Et par exemple, donc à Rennes, est-ce que c'est plutôt bien géré ces solutions ou pas encore suffisamment ?
À Rennes, comme dans beaucoup d'autres villes, c'est des préoccupations qu'on a vues émerger depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a aménagé des places plutôt minérales. Il y avait un effet un petit peu classique de place ornementale avec beaucoup de granit, beaucoup de surfaces sombres. Donc c'est une époque qui est révolue maintenant. On voit que la plupart des aménagements à Rennes, comme ailleurs, on remet davantage d'arbres, on met des fontaines, on enlève des places de stationnement. Donc on essaie de récupérer un petit peu des espaces pour aller vers ces solutions vertes, vertes et bleues. Et donc à Rennes, comme dans beaucoup d'autres villes, c'est une préoccupation qui a émergé depuis une dizaine d'années et on voit que les aménagements récents tiennent compte de ces préconisations pour limiter la surchauffe urbaine.
Donc je parlais de Rennes et je pense à un exemple précis. Par exemple, quand on se trouve à la gare de Rennes en attendant à l'arrêt de bus en plein milieu d'après-midi en été, eh bien la réflexion du soleil rend la zone difficilement supportable. La rénovation de la gare est assez récente, mais c'est un peu un exemple d'une architecture qui n'est pas vraiment adaptée au réchauffement climatique.
Oui, alors peut-être que certains de nos auditeurs connaissent la gare de Nantes qui a dû fermer, elle, l'été dernier, parce qu'en plus de l'effet de masse, il y avait en plus les vitres qui stockaient de la chaleur, qui rendaient l'endroit même potentiellement dangereux. Mais sur ce genre de place, on est sur des aménagements conçus il y a très longtemps, parce qu'il faut voir que tous ces aménagements, ces opérations d'urbanisme, certaines ont été planifiées depuis parfois plus de 20 ans, et donc effectivement, les choses ont évolué depuis. Et après, il y a une autre contrainte qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que souvent, on aimerait avoir plus de verdure sur des places, mais en fait, une place, c'est aussi souvent un endroit où, en dessous des pavés ou du bitume, il y a des canalisations, il y a des passages de métro, et donc implanter des arbres n'est pas si simple que ça. Il y a des endroits où on peut pas, simplement parce qu'il y a des canalisations de gaz, etc. Donc ça suppose, si on veut réaménager tout ça, d'évacuer tous ces réseaux, de les déplacer. Donc voilà, c'est pas une opération simple non plus.
La Didacide de Théo sur le 94 FM et on retourne en plateau avec Vincent Dubreuil, géographe, climatologue et enseignant à l'université Rennes 2. On va passer désormais à un sujet qui est important en Bretagne, l'agriculture. La Bretagne est donc une grande région agricole et le changement climatique affecte forcément les cultures et les élevages, que ce soit quand il y a des inondations ou même par la chaleur. On parle d'ailleurs d'une augmentation de la variabilité des rendements et de la qualité des récoltes. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour les agriculteurs bretons ?
Alors, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de difficultés à composer avec un climat qui connaît certaines années des épisodes pluvieux importants, donc qui empêche de travailler les sols, et même parfois les tracteurs ne peuvent pas rentrer dans les parcelles simplement parce que les sols sont gorgés d'eau. Donc il y a certaines pratiques agricoles, on ne peut pas semer, on ne peut pas récolter. Et puis au contraire, des périodes longues où on n'a pas d'eau et où donc on a des plantes qui souffrent du manque d'eau, on appelle ça du stress hydrique. Et ça, ça fait chuter les rendements. Donc les années de grande sécheresse, comme on a connu ces dernières années, on a vu des pertes de rendement sur les fourrages, sur les maïs de 15, 20, 30%. Et donc c'est effectivement, on a coutume de dire que les agriculteurs sont quelque sorte en première ligne face au changement climatique. La production végétale et en partie animale dépend directement des conditions météorologiques. Et donc ça suppose que dans un climat qui change, l'agriculture va devoir s'adapter, changer un certain nombre de pratiques, peut-être penser à changer de variété, changer de système de production, et de façon à être plus résilient, c'est-à-dire à mieux supporter un climat de demain qui sera différent de celui qu'on a connu jusqu'à maintenant.
Quel système de production pourrait émerger dans les prochaines années ?
Alors, devant la variabilité climatique, ce qui est prôné par beaucoup d'études scientifiques, c'est la diversification. C'est-à-dire éviter d'avoir des systèmes de monoculture où quand un événement se produit, en fait, toute la chaîne de production s'arrête parce que, en fait, une seule culture va être impactée très fortement par un aléa climatique. Donc la première chose, c'est un système de diversification qui, alors ça renvoie à l'image populaire de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, mais de façon plus sérieuse et scientifiquement, on a pu démontrer que dans beaucoup de ces systèmes diversifiés, on avait une meilleure résilience. Alors dit comme ça, ça a l'air simple, c'est pas si simple que ça à mettre en place dans une exploitation, parce que ça suppose une formation diversifiée, on ne produit pas du maïs comme on produit des pommes de terre, etc. Et donc ça suppose une formation, un accompagnement, ça suppose aussi que des filières d'ailleurs, parce que c'est bien joli de produire, mais encore faut-il qu'il y ait un marché, qu'il y ait une filière qui permet de commercialiser, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui, à terme, devra transformer l'agriculture. Dans les éléments qu'on peut avoir aussi en tête, c'est, pour être plus résilient face au changement climatique, c'est faire en sorte que, globalement, les parcelles et le paysage agricole maintiennent une plus grande quantité d'eau, exposent moins les cultures et les animaux aux fortes chaleurs. Donc c'est pour ça qu'un paysage avec davantage d'arbres, un bocage gardé un petit peu plus dense, qui permet la rétention en eau, qui permet aussi de lutter contre l'appauvrissement de la biodiversité, qui génère de l'ombre. Enfin, voilà, c'est aussi des solutions qui sont intéressantes, plutôt que des grandes parcelles en sol nu, exposées à l'érosion, sans arbres et sans haies pour protéger. Donc c'est aussi une dimension importante à prendre en compte. Et puis ça participe aussi à un certain maintien d'une forme de paysage rural auquel beaucoup de nos concitoyens sont habitués et aiment bien.
Vous travaillez sur le projet UMAC, donc pour Urban Mortality and Climate Change à Rennes, un projet qui vise à étudier comment le changement climatique à Rennes Métropole conduit à une surmortalité affectant humains, animaux et plantes. Qu'est-ce que vous avez découvert sur les impacts du climat sur la santé des habitants ?
Alors, c'est un projet qui a commencé il y a 6 mois, donc on est en train de travailler sur les données. En fait, ça part de plusieurs constats. Le premier, c'est que quand on a des vagues de chaleur, on observe déjà une surmortalité. On avait chiffré, par exemple, qu'en 2022, les vagues de chaleur avaient entraîné une surmortalité en Bretagne. Je ne parle pas de Rennes, je parle de l'ensemble de la Bretagne, de plus de 200 personnes. Donc, ça veut dire une surmortalité qui est importante. C'est comme si un gros Airbus s'était écrasé au milieu de la Bretagne. Là, on aurait sûrement beaucoup parlé. Mais en fait, les vagues de chaleur, elles tuent les personnes un petit peu âgées, un petit peu fragiles. C'est quelque chose qui a été très connu, très étudié avec, lors de la vague de chaleur de 2003. Mais finalement, on en parle assez peu.
Donc le projet UMAC, il s'intéresse évidemment aux hommes et aux femmes, mais pas seulement.
Le deuxième constat, c'est que quand on parle de surchauffe urbaine, en fait, ça n'infecte pas que les hommes et les femmes, mais aussi la végétation. Donc les arbres, par exemple, on a une surmortalité importante des arbres depuis plusieurs années, pas qu'en Bretagne, mais dans la France de façon générale. Et donc, c'était l'idée de regarder aussi ce qui se passe pour les arbres. Et puis, on a aussi des impacts sur d'autres populations, notamment certaines populations animales, des insectes, qui sont aussi dans des conditions de stress thermique et ou hydrique. Et donc, l'originalité de ce projet, en fait, tout ce que je viens de dire, les hommes, les animaux, les plantes, souvent, c'est étudié de façon séparée. Et là, l'idée, c'est d'avoir une démarche qu'on appelle One Health, donc une seule santé, une approche un petit peu systémique, où on regarde globalement comment la surchauffe urbaine, elle impacte toutes ces populations différentes, animaux, végétaux, êtres humains. Hein, pour l'idée, en travaillant avec les métropoles, c'est de fournir des solutions pour rendre la ville plus résiliente.
Justement, est-ce qu'il y a des élus locaux qui se sont saisis de vos travaux ? Donc là, c'est lié avec la métropole, c'est ça ?
Oui, alors en fait, on a mis en place sur Rennes Métropole depuis plus de 20 ans maintenant un réseau de suivi et de mesure des températures. D'ailleurs, c'est un réseau qui est ouvert et que les gens peuvent consulter sur un téléphone ou sur leur ordinateur. Donc en temps réel, on a une mesure de la température. Ça nous permet de diagnostiquer la fréquence des îlots de chaleur, de faire des cartes, de produire des cartes et savoir quels sont les quartiers qui sont les plus concernés. Et ça, c'est particulièrement utile pour la métropole, notamment pour conduire son plan climat, ce qu'on appelle le PCAET, qui a été voté en 2025 à Rennes Métropole. On peut fournir des indicateurs qui objectivent un petit peu les choses. Donc avoir une politique qui n'est pas conduite au doigt mouillé, comme on dit, mais vraiment sur lesquels avec des indicateurs sur lesquels on peut se fonder. Et on essaie de travailler de plus en plus sur de la modélisation, c'est-à-dire on essaie d'anticiper en proposant des modèles qui permettent de voir qu'est-ce qui pourrait se produire si on changeait telle ou telle chose, si on met plus d'arbres, si on change un petit peu l'urbanisme. Donc c'est un échange régulier de co-construction en fait d'une démarche scientifique qui inclut les acteurs du territoire.
Quel regard portez-vous sur la reconnaissance et le soutien à la recherche ces dernières années? Est-ce que vous avez assez de moyens, donc notamment financiers, pour développer vos projets?
Alors en fait, chercheurs et enseignants-chercheurs, on passe beaucoup de temps à chercher de l'argent. On aimerait avoir un peu plus de temps pour faire de la recherche et travailler sur nos objets de recherche, mais malheureusement, on est dans un système aujourd'hui où on passe beaucoup de temps à aller chercher de l'argent. Théoriquement, les États européens s'étaient engagés à mettre à disposition et à consacrer à la recherche 3% de leur produit intérieur brut. On en est loin en France, on doit être autour de un peu moins de 2%, donc on voit qu'il y a d'autres priorités. Mon université, et elle n'est pas la seule malheureusement, est en déficit chronique, avec des soutiens de l'État qui sont insuffisants. Donc c'est une vraie difficulté qu'on a aujourd'hui. Et donc, ce qui nous oblige à construire, alors ça peut avoir des côtés vertueux aussi, de se tourner vers des entreprises, vers des collectivités pour aider à financer fondamental. Et donc, beaucoup de scientifiques aujourd'hui s'impliquent dans les débats citoyens sur le changement climatique. En Bretagne, on a mis en place un haut conseil breton pour le climat qui porte la parole des scientifiques dans la sphère politique, dans la sphère publique, pour se faire entendre et dire à quel point la science, elle est aujourd'hui plus que jamais utile pour répondre aux défis socio-environnementaux.
Eh bien, merci Vincent Dubreuil. Je rappelle que vous êtes géographe climatologue et enseignant à l'Université Rennes 2. Merci.
Merci.
Et aujourd'hui, Julie, tu vas nous parler de Soulèvement, un documentaire sur le collectif Les Soulèvements de la Terre.
Et oui, Manon, sorti mercredi dernier, il a été réalisé par Thomas Lacoste. Ce réalisateur est connu pour sa démarche scénaristique de laisser le récit se créer avec des témoignages. C'est face caméra que 16 personnes, agricultrices, étudiantes, travailleuses, racontent leur entrée dans le collectif, leur amour pour la nature et le rapport concret qu'ils ont avec celle-ci.
Pour rappel, Les Soulèvements de la Terre est un collectif qui a été créé par d'anciens militants de la Zone à défendre, ou ZAD, de Notre-Dame-des-Landes. Il se présente aujourd'hui comme un réseau de lutte locale dont l'objectif, je cite, est d'établir un véritable rapport de force en vue d'arracher la terre aux ravages industriels et marchands.
Oui, ils sont connus du grand public notamment depuis leur lutte contre les méga-bassines, lutte qui leur a valu d'être désignés d'éco-terroristes par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin. Mais déjà avant ça, le gouvernement et les médias délégitiment leur combat en réduisant leurs actions à de l'hyperviolence gratuite. La méthode d'action des soulèvements de la terre est d'investir des lieux stratégiques de l'agro industrie pour empêcher l'exploitation intensive des ressources naturelles.
Et on voit rarement des chaînes de télévision historiquement de droite, voire même celles du service public, parler de la pensée écologique en elle-même et la mettre en avant. Et donc le but du documentaire, c'est de mettre en lumière les origines de cette lutte pour l'environnement.
Oui, en fait, il se focalise sur ces parcours de vie qui croisent ceux des mobilisations collectives, sans pour autant être un reportage sensationnaliste au cœur d'une ZAD. On ne voit d'ailleurs que peu d'images des actions de désobéissance civile. Le documentaire prend plutôt son temps, les longues interviews laissent place aux émotions qu'engendre la lutte écologique, la colère face à la répression, l'impuissance face à l'immensité des industries. Mais ce qui revient toujours, c'est la joie que procure la solidarité du collectif.
Et est-ce que t'as un témoignage qui t'a marqué du coup ?
Oui, le moment qui m'a le plus marqué, c'est le témoignage d'un père et de sa fille en Haute-Savoie, qui parle de la ZAD de la Clusaz. Cette action contre un projet de retenue d'eau destiné à l'enneigement artificiel a été victorieux. Et ici, ce que j'ai trouvé très touchant, c'est cette transmission de la lutte écologique. En fait, le père explique qu'il se considérait auparavant de centre-droite et que quand ses enfants ont fait des études, c'est eux qui lui ont transmis ce goût pour la lutte. Et je trouve ça très beau parce qu'on a souvent tendance à dire qu'à partir d'un certain âge, bon bah c'est bon, il changera pas d'avis, il n'y a plus rien à faire, etc. Surtout qu'il est de la génération de ceux qui ont tout eu et ceux qui ne se souciaient pas vraiment de l'environnement. Et là, ce père de famille renverse complètement cette imagination, allant même jusqu'à s'excuser au nom de toute sa génération de laisser un monde dans cet état-là à ses enfants. Et là, bon, bah, tout le monde pleure, moi y compris. Et en tant que jeunes éco-anxieux que nous sommes, quand on voit les conséquences inévitables du dérèglement climatique, que d'ailleurs le climatologue Vincent Dubreuil vient de nous rappeler dans ton interview, Manon, ça fait du bien de voir des actions collectives de grande envergure comme celle-ci et de voir qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres gens qui dédient leur vie à cette lutte.
Je le rappelle, le documentaire Soulèvement passe du 17 au 24 février au TNB à Rennes. Et demain, il y a une séance spéciale avec l'intervention de réalisateurs et de membres du collectif à la fin de la projection. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Apolline pour son billet d'humeur. J'espère que ta première expérience en radio t'a plu. Merci à Vincent Dubreuil d'être venu sur le plateau de 3 en 1. Et merci à Julie pour la chronique du jour sur Canal B. Et nous, on se retrouve après une petite pause d'une semaine. Et pour la prochaine émission de 3 en 1, vous retrouverez une nouvelle émission spéciale municipale. Bon après-midi, bonne journée si vous nous écoutez en rediff.